Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans LP de nuit. LP de nuit, c'est la référence à écouter pour être au plus proche du lycée. Vous retrouverez ici nos internes et leurs chroniques pour le plus grand plaisir de vos oreilles. Et n'hésitez surtout pas à nous retrouver en ligne sur le site de Delta FM ou bien sur notre page YouTube. Pour ce quatrième lundi, un peu consécutif mais pas trop non plus, les épreuves du bac blanc et Parcoursup nous ont amputés de quelques membres. Et même si l'adage « plus on est de fous, plus on rit » est loin d'être faux, ce n'est pas pour autant que l'on ne peut pas rire si l'on est moins. Cette semaine, on voyage dans le cosmos, on voyage jusqu'au plus beau monument et on tape du pied. En effet, nous avons Néo au micro. Tu nous parles de quoi aujourd'hui, Néo ?
Aujourd'hui, on va parler de l'intelligence artificielle dans la création musicale.
Génial. On a aussi Gabriel. Gabriel, qu'est-ce qu'on construit avec nos petites mémines ?
Eh bien, on va construire Notre-Dame de Paris.
Oh là, je crois que c'est beaucoup de boulot, non ?
Un peu beaucoup.
Et enfin, on s'envole pour les étoiles avec Léandro. Mais où est-ce qu'on atterrit, Léandro ?
Bonsoir, et ce soir, nous parlons constellations et légendes.
Oh, j'ai hâte. Maintenant que je vous ai présenté notre équipe de chroniqueurs pro, il est l'heure de lancer le générique, maestro. Et on commence tout de suite sans préambule par taper du pied et par secouer sa crinière avec Néo.
Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est de plus en plus récurrent dans l'actualité. C'est l'intelligence artificielle, ou plutôt ce soir, l'intelligence artificielle dans le domaine musical. Et donc on verra aussi l'impact que ça peut avoir sur l'industrie musicale et sur les métiers dans ce domaine-là. Déjà, il faut savoir que depuis quelques années, l'IA, elle est vraiment partout, donc dans les téléphones, dans les voitures, mais aussi maintenant dans la musique. Donc on va décortiquer son impact sur la création musicale et les avantages et les controverses que ça pose. Pour commencer déjà, qu'est-ce que l'IA dans la musique ? Donc il faut savoir que dans la musique, les intelligences artificielles, c'est pas des robots qui font des musiques futuristes, c'est plutôt des algorithmes qui sont capables d'analyser des tonnes de données musicales pour composer, faire des arrangements et même de mixer des morceaux. Donc il existe par exemple AIVA, Ampere Music ou Jukebox qui sont actuellement les plus connus et qui sont capables de réaliser des compositions originales dans des styles musicaux très différents et variés comme de l'électro, du rap ou encore du classique par exemple. Et ça se fait en seulement quelques secondes, donc c'est vraiment rapide. Il est également nécessaire de préciser que ce ne sont pas seulement les amateurs qui ont recours à l'intelligence artificielle, parce que même certains artistes connus y ont parfois recours, comme par exemple Taryn Southern, qui a composé son album I Am AI, sorti en 2017, qui a été exclusivement composé à l'aide de l'intelligence artificielle Ampere Music. Elle s'en est servie pour générer des mélodies, des harmonies et des arrangements, ce qui permet de montrer qu'il est possible de faire de la musique sans avoir nécessairement beaucoup de connaissances musicales. Et c'est justement un point qui peut inquiéter, parce que ça pourrait signifier que le métier de beatmaker, il pourrait potentiellement disparaître progressivement au fil du temps. Donc maintenant, les avantages de l'IA donc pour la création musicale. On pourrait déjà se demander ce que ça peut changer pour les artistes que l'IA soit de plus en plus présente dans la musique. Et il faut savoir que ça change beaucoup de choses et que c'est un énorme impact. Tout d'abord parce que ça démocratise donc la création, ça montre qu'il n'y a pas besoin d'être un pro de la composition et d'avoir de grandes connaissances pour faire de la musique. Ça permet également à des créateurs n'ayant aucune formation musicale de réaliser des compositions facilement. Et c'est aussi un super outil pour trouver des idées rapidement, faire des maquettes ou faire des compositions dans des styles qu'on maîtrise ou ne connaît pas forcément. Et ça permet aussi de gagner du temps. Et certains producteurs s'en servent pour générer des boucles, des harmonies ou même des paroles dans des styles particuliers ou avec la même manière que celle d'un artiste en particulier. Et c'est comme ça que l'IA elle est devenue un assistant créatif dans le monde de la musique. Donc ça a quand même quelques avantages. Mais ça a quand même des limites et des controverses. Donc évidemment, tout n'est pas rose. Il y a énormément de critiques sur le sujet, notamment sur la question de la créativité. Et si est-ce qu'une musique générée par l'intelligence artificielle peut vraiment être considérée comme de l'art ? Et donc c'est là que le débat devient intéressant, parce qu'on sait que l'IA ne ressent rien, ne possède pas d'émotion. Et ça se base seulement sur des statistiques et des modèles. Et elle peut imiter des styles, mais elle n'est pas capable de créer avec une intention émotionnelle, contrairement à un humain. Et puis il y a aussi le problème des droits d'auteur, parce que si une IA elle s'inspire de milliers de chansons existantes, c'est du coup difficile de savoir à qui appartient la musique finale. Donc si c'est à l'artiste qui a utilisé l'IA, au développeur de l'algorithme, etc., c'est assez difficile de le définir.
Et on a vu tout à l'heure qu'en plus on peut aussi prendre des voix d'artistes, c'est ça?
Absolument.
Donc finalement, ça pose encore une question supplémentaire.
Exactement, oui, on peut prendre la voix, je sais pas, de Johnny Hallyday et lui faire chanter Libéré, délivré de la Reine des Neiges. Enfin, on peut faire un peu ce qu'on veut avec. Il y a aussi ce point-là aussi. Ou même d'autres chansons dans n'importe quel style. On peut créer notre propre chanson et poser la voix d'un artiste déjà connu dessus pour lui faire chanter des paroles composées par quelqu'un d'autre. Donc, ouais, il y a ce point-là aussi qui pose question. Et pour y revenir, il y a aussi certains artistes qui se plaignent aussi du risque de standardisation sur le fait que bah, des musiques peuvent parfois se ressembler trop, peuvent être trop lisses, sans âme, etc. Et bah, ce qui fait que c'est plus des produits que des œuvres. C'est en tout cas comme ça que considère la musique générée par l'intelligence artificielle, d'après certains artistes. Maintenant, on va aborder le point de l'IA et de l'avenir de la musique. Parce que la question qui se pose aussi, c'est que est-ce qu'on va tous finir par écouter des musiques faites par des robots? Heureusement, pour l'instant, l'IA, c'est juste un outil et pas un remplaçant, ou en tout cas pas encore. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Et parce que ce qui fait la force de la musique, c'est l'émotion, l'histoire qu'elle raconte, et sur ce point-là, l'humain, il reste encore irremplaçable. Et en fait, le futur sera peut-être plutôt une collaboration entre l'homme et la machine, puisque bah, l'IA, elle peut enrichir la création, mais c'est toujours l'artiste qui donne du sens à la musique. Donc finalement, l'intelligence artificielle, c'est ni un génie créatif, ni un danger pour la musique, c'est plutôt un outil puissant et à utiliser avec intelligence, justement. Et donc l'important, c'est de garder une part d'humanité qui fait vibrer la musique, puisque l'IA, elle peut générer des sons, mais c'est l'humain qui fait naître et créer les émotions. Donc merci de m'avoir écouté. Et posez-vous la question maintenant, lorsque vous écoutez de la musique, pour tenter de savoir si c'est un humain ou une IA qui l'a composée. Et pour ça, on va tout de suite écouter une chanson composée uniquement avec une IA.
Wish I could see beyond what I can see. I wish I could touch beyond what I can touch. I wish I could feel beyond what isn't real. I wish I could imagine, imagine, yeah. There's more to who we are. There's more to what we could be. As I feel the weight of being, I'm learning how to break free. I'm beyond what I can smell. I wish I could taste beyond what I can taste.
Merci beaucoup pour cette recommandation. Est-ce que tu peux nous rappeler le titre du compositeur? Donc on rappelle le titre, c'était Break Free de Taryn Southern.
C'est bien ça.
Excusez mon accent coupé au couteau. Merci beaucoup, Néo.
Pas de souci. Merci à vous.
Et tout de suite, on revient un peu dans le passé. On quitte l'IA, pas certaine. Quoique, remarque, je pense qu'on peut réussir à se servir de l'IA pour peut-être refaire des reproductions, essayer de comprendre comment un bâtiment a déjà été construit. Et je suppose qu'on va en parler aujourd'hui avec la revue Architecture, la revue archi intéressante de Gabriel.
Eh bien oui, aujourd'hui on va parler donc de Notre-Dame de Paris. Et donc il faut savoir que cette cathédrale, elle a été construite il y a fort longtemps. Mais tout d'abord, je vais vous laisser avec une petite introduction pour vous mettre dans l'ambiance de l'architecture et de ma chronique. Et donc, pour cette chronique, il faut vous imaginer au 4e siècle, avec l'avènement de Clovis. Paris devient alors la capitale chrétienne du royaume des Francs. C'est alors qu'une première cathédrale, Saint-Étienne, est bâtie au 4e siècle. L'essor de la ville débute au 12e siècle, après les invasions normandes. La ville prospère et devient un lieu d'échanges artistiques et intellectuels doté de collèges et d'une université de philosophie et de théologie. C'est ainsi que débute l'histoire de Notre-Dame. Parallèlement, les croisades vers Jérusalem et les pèlerinages vers Saint-Jacques-de-Compostelle déplacent des milliers de fidèles sur les chemins. Ainsi, l'île de la Cité est une étape incontournable pour franchir la Seine. De fait, les fidèles affluent dans le quartier de la Cité et ils génèrent une attractivité commerciale et des offrandes pour le culte. C'est donc dans ce contexte, avec beaucoup d'afflux, que va, le 12 octobre 1160, Maurice de Sully, évêque de Paris, entreprend la construction d'une nouvelle et vaste cathédrale. Et c'est à lui d'ailleurs qu'on doit le nom de cette cathédrale qui s'appelle Notre-Dame de Paris. Donc dès son investiture, il parle de restructuration et d'édification. C'est grâce à lui que 3 ans plus tard, la première pierre est posée en présence du pape. Donc nous sommes en 1163. Et donc dans les 90 années qui vont suivre, donc il y a eu 4 grandes campagnes de travaux qui vont marquer un peu cette période, sous la direction de 4 maîtres d'œuvre différents. Puis, de la fin du XIIIe siècle au début du XIVe siècle, les travaux vont être pris par Jean de Chelles, Pierre de Montreuil, Pierre de Chelles, Jean Ravi, Jean Loutier. En fait, il y a eu beaucoup de maîtres d'œuvre différents parce que ça s'est vraiment étalé sur plusieurs années. Et donc, c'est après, presque 300 ans après le début de sa construction, que le chantier Notre-Dame fut terminé pour ressembler un peu à la version que nous connaissons aujourd'hui, avec des tours qui s'élèvent à 69 mètres de haut. Mais l'édification de Notre-Dame n'est pas un simple chantier. C'était une véritable opération d'urbanisme, l'une des rares que connut Paris au Moyen-Âge. Avant de construire, il faut acheter donc les terrains, exproprier, démolir, et la surface progressivement libérée sert de chantier de construction. Certains des matériaux provenant de la démolition seront réemployés dans le nouvel édifice, d'autres combleront les fondations. Car la règle c'est interdiction de réutiliser des pierres dans un ouvrage. C'est considéré comme profane en fait, d'utiliser des pierres qui ont été dans un ouvrage religieux, de ne pas les réutiliser dans un ouvrage religieux. Donc en positionnant ce nouvel édifice à l'est de l'ancien, Maurice de Sully permet l'aménagement ultérieur d'un parvis d'ampleur exceptionnelle pour l'époque, le parvis de Notre-Dame que nous connaissons aujourd'hui. Les travaux de la nouvelle cathédrale commencent par le chœur, on creuse les fondations profondes qui assurent la stabilité de l'énorme édifice, et au fond des tranchées, donc il y a des grands blocs de pierre très durs qui sont posés sur des lits de sable. Donc on peut se demander combien il y avait d'ouvriers sur un chantier aussi immense. Donc il y avait peut-être des dizaines, peut-être des centaines de terrassiers, de tailleurs de pierre, de sculpteurs, de mortuliers préparant le chantier, à même le sol. Donc des hommes livrant aussi des matériaux, acheminés sur des chariots, conduits par des bœufs ou bien des chevaux. Des charpentiers qui construisent aussi les premiers instruments de levage pour positionner des lourds blocs de pierre. Donc en fait, ça a permis aussi de nombreuses innovations à l'époque, parce que c'était quand même un projet un peu titanesque. Donc c'était une véritable fourmilière laborieuse, un sentier qui est balayé par la fumée des fours où l'on cuit des pierres à chaud ou avant de les broyer pour construire le mortier mêlé à du sable et de l'eau. Donc la cathédrale ensuite va s'agrandir et se modifier pour devenir un modèle de l'architecture religieuse. Durant la Renaissance, les goûts évoluent et son attrait est un peu délaissé. C'est au cours du XVIIe siècle, par le vœu de Louis XIII, que le royaume se place sous la protection de la Vierge et promet un nouveau maître-autel pour la cathédrale, qui sera réalisé par son fils Louis XIV. De grands aménagements ont lieu donc au XVIIIe siècle. Elle a été malmenée par les intempéries, et notamment la Révolution, et donc elle menace de s'effondrer au XIXe siècle. Et c'est porté par un regain de popularité, grâce à Notre-Dame de Paris, donc de Victor Hugo, que l'État décide de faire des nouveaux travaux de restauration. Et donc Notre-Dame va avoir le plus important chantier de restauration de l'époque. Et ce sont les architectes, donc Lassus et Viollet-le-Duc, qui vont mener le chantier. Il se déroule de 1844 à 1864, avec une interruption entre 1851 et 1859, faute de moyens financiers. Durant cette vaste entreprise, la notoriété de Viollet-le-Duc s'accroît au fur et à mesure que la critique s'enthousiaste ou s'enflamme pour le projet qui est quand même titanesque. Et donc, Viollet-le-Duc aborde la réflexion de l'édifice d'une façon assez moderne et inédite, parce qu'il se base non sur un travail de... il base son travail sur un corpus documentaire constitué des anciens dessins, ce qui fait qu'aujourd'hui Notre-Dame ressemble à Notre-Dame de l'époque, parce qu'il y a beaucoup d'évolutions, etc. Et lui, il est revenu vers la base. Et donc, il est confronté à un dilemme, c'est soit retrouver l'état médiéval d'origine, ou bien garder les traces de l'histoire, en fait, ou alors se diriger vers quelque chose de plus moderne qui pourrait correspondre à l'époque. Et donc, il a adopté un compromis, mais majoritairement quand même inspiré du style médiéval. Donc aujourd'hui, on sait que Notre-Dame est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc c'est depuis 1991, et donc la cathédrale est un haut-lieu de culte, et le monument est le plus visité de France en 2018. Mais à la suite, on le sait tous, de l'incendie de 15 avril 2019, qui a détruit la charpente médiévale et la flèche de la cathédrale, donc il y a eu un important chantier de restauration qui est mené afin de la réouvrir au culte, et donc elle a pu être réouverte depuis. Mais un mystère subsiste. On ne lance pas un projet aussi ambitieux sans s'assurer des services de l'un des meilleurs architectes des temps. Paradoxalement, on ignore complètement le nom du premier maître d'œuvre de Notre-Dame, de celui qui a établi le plan, qui posa les fondations, qui commença l'édification du chœur. Donc les archives n'ont livré qu'un seul nom. À la date de 1164, ce serait un certain Ricardus, qui serait le premier architecte au XIIe siècle. Et donc, merci de m'avoir écouté pour cette chronique. Et je vais avoir un petit quiz à la fin, donc pour savoir si vous avez bien écouté et retenu les différentes notions. Donc tout d'abord, en quelle année la première pierre de Notre-Dame a-t-elle été posée? Un peu difficile celle-là. Est-ce que vous avez déjà un siècle, une idée?
1163?
Exactement. C'est... la bonne réponse.
Je suis celle qui écoute le plus, en fait.
J'avais 11e, 12e siècle, à peu près.
Mais non, mais c'était ça. Mais c'est parce qu'il ne faut pas se tromper, parce que le projet est lancé en 1160, mais ce sera en 1163 qu'il y aura la première pierre. Donc, et quel est le nom de l'architecte qui l'a rénové donc, au 19e siècle? On a deux architectes, il y en a un.
Je crois que ça commence par le...
C'est Viollet-le-Duc.
Ah, okay. Alors,
le Duc, voilà.
C'est son prénom ?
Ouais, c'est son prénom, exactement. C'était un nom composé assez long. Ouais. Et donc, quelle est la hauteur des tours de Notre-Dame ?
69, ça je
l'ai retenu. Ça, tu l'as retenu.
Ça m'étonne, tiens.
C'est une dernière partie où j'ai vraiment été attentif, donc.
Okay. Voilà. Donc, c'était tout pour ma chronique. Merci de m'avoir écouté pour visiter ce magnifique lieu qu'est Notre-Dame. Et donc, à la semaine prochaine pour de nouveaux bâtiments.
Merci beaucoup, Gabriel. On se rend compte finalement que les débats autour des rénovations, est-ce qu'on conserve, est-ce qu'on fait évoluer, est-ce qu'on revient dans le passé qu'on a eu au moment justement de la rénovation de Notre-Dame après l'incendie en 2019, étaient déjà des problématiques qu'il y avait il y a 2, 3, 4, 5, 6 siècles.
Oui, c'est assez fou de se dire qu'en fait, on croit qu'on réinvente tout le temps, c'est que ça. Notre-Dame, on se dit waouh, on revient au passé, etc. Et au final, c'est justement le fait qu'il ait décidé de conserver Notre-Dame du Moyen-Âge, Viollet-le-Duc, qui a fait qu'aujourd'hui, on a cette Notre-Dame que tout le monde apprécie.
Oui, c'est ça.
Donc, sur le moment, c'était très controversé, et maintenant, ça paraît évident. Donc, ouais, c'est assez fou.
Et puis en quelque sorte, elle n'a jamais été originale, vu qu'elle a toujours été refaite.
Oui, c'est ça. Oui, oui. Et puis comme je vous disais, 300 ans de chantier. C'est...
Oui, forcément, les styles évoluent. Oui, voilà, tout est plein de changements. Puis comme tu disais, au fur et à mesure des années, elle a changé. Finalement, à Notre-Dame... médiévale qu'on a eu aujourd'hui n'est absolument pas médiévale.
Et c'est ce qui rend la richesse du bâtiment, c'est toute cette recherche, ces différents architectes, quoi.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Gabriel. Et on enchaîne tout de suite avec Néo. Je crois bien que tu avais une musique à nous recommander pour notre seconde pause musicale.
Absolument, je vais vous parler rapidement d'un groupe, donc le groupe Anima, A-N-I-I-M-A, qui est donc un groupe de death metal français, originaire de Poitiers, fondé en 2023. Donc le groupe a sorti son premier EP il y a presque maintenant un an, donc le 30 mars 2024. Un EP composé de mélanges de death, de thrash ainsi que de black metal. Vous pouvez les retrouver sur toutes les plateformes de streaming ainsi que sur YouTube. Et l'achat de leurs CD et de leurs t-shirts est possible sur le site anima.fr. Le groupe réalise des concerts régulièrement dans des bars ainsi qu'aux expressifs et bientôt au Republic Corner à Poitiers si certains d'entre vous sont intéressés. Sur ce, je vous laisse découvrir un extrait de leur chanson « Univers ».
Très bien, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'on vient d'écouter, Néo ?
Donc c'était le groupe Anima, je répète A-N-I-I-M-A. Donc, n'hésitez pas sur toutes les plateformes de streaming ainsi que sur YouTube.
Merci beaucoup. Et on reste un peu dans le même thème, hein, le thème de l'univers finalement. Puisque pour finir en beauté notre émission et se détendre un peu, je vous propose de lever les yeux vers le ciel afin de plonger au plus profond du cosmos de Léandro. Coucou Léandro.
Bonsoir à toutes et à tous, je suis Léandro et bienvenue dans les Récits du Cosmos, une chronique sur l'astronomie et tout ce qui l'entoure. Ce soir, nous abordons un sujet plus joyeux que la dernière fois, parce que nous embarquons ensemble pour un voyage à travers les étoiles et leurs légendes. Elles n'ont pas toujours été qu'un simple décor nocturne. Bien au contraire, les constellations ont servi de calendrier, de boussole ou de guide spirituel aux civilisations anciennes. Les Égyptiens les utilisaient pour aligner leurs temples, les navigateurs les suivaient en mer et les Grecs y voyaient des échos de leurs mythes. Parmi les constellations les plus reconnaissables, Orion trône majestueusement avec sa célèbre ceinture formée de trois étoiles alignées. Ce chasseur, connu pour sa force et son arrogance, aurait défié les dieux en prétendant pouvoir terrasser toutes les créatures de la Terre. Pour le punir, Artémis, ou Gaïa, selon les versions, envoya un scorpion géant qui lui infligea une piqûre mortelle. Pour honorer leur affrontement, Zeus plaça Orion et Scorpion aux extrémités opposées du ciel. Ainsi, quand Orion se couche à l'horizon, le scorpion s'élève de l'autre côté, perpétuant leur rivalité pour l'éternité. Autre constellation emblématique, la Grande Ourse, qui est visible toute l'année dans l'hémisphère nord. Selon la mythologie grecque, elle représente Caïsto, une nymphe autrefois aimée de Zeus. Jalouse, Héra la transforma en ours, la condamnant à errer sous cette forme sauvage. Son fils, Arcas, faillit la tuer en la prenant pour un simple gibier. Zeus, pour éviter le drame, les envoya tous les deux dans le ciel. Caïsto devient la Grande Ourse et Arcas la Petite Ourse. Mais Héra, toujours furieuse, demanda à Poséidon d'empêcher ses étoiles de se reposer sous l'horizon. C'est pourquoi ces constellations restent éternellement visibles, tournant autour du pôle Nord sans jamais disparaître. Pour continuer, je vais vous parler de la constellation des Poissons. Lorsqu'un jour le monstrueux Typhon menaça l'Olympe, la déesse Aphrodite et son fils Héros durent fuir pour échapper à sa colère. Pour se cacher, ils plongèrent dans un fleuve et se transformèrent en poissons. Afin de ne pas se perdre, ils s'attachèrent l'un à l'autre avec une corde. Touchés par leur intelligence et leur amour, Zeus les plaça dans le ciel, sous la forme de la constellation des Poissons, où ils nagent côte à côte pour l'éternité. Lorsque nous levons les yeux vers les étoiles, nous ne contemplons pas seulement des astres lointains, nous plongeons dans un livre ouvert sur notre passé, un recueil d'histoires transmises de génération en génération. Les constellations sont bien plus que de simples points lumineux. Elles sont les témoins de l'humanité, inscrivant dans le ciel nos espoirs, nos craintes et nos rêves. Que l'on soit dans l'Antiquité grecque, chez les aborigènes d'Australie ou les tribus nordiques, les hommes ont toujours projeté leur mythe dans les étoiles, cherchant à y trouver du sens. Aujourd'hui encore, ces légendes continuent de nous inspirer. Dans la science, où nous explorons les confins de l'univers, dans l'art, où elles nourrissent notre imagination, dans nos cœurs, où elles ravivent cette même fascination ancestrale pour le ciel. Alors, la prochaine fois que vous observerez Orion, la Grande Ourse, les Poissons ou bien d'autres constellations, souvenez-vous qu'au-delà de la lumière de ces étoiles se cachent des histoires immortelles, des récits qui ont marqué l'humanité et qui, peut-être, continueront de nous émerveiller pour des millénaires encore. Merci de m'avoir écouté, c'était Léandro, et à une prochaine pour plus de récits du cosmos.
Merci beaucoup de nous émerveiller aussi, Léandro. Bravo, c'était magnifique. Et c'est sur cela que l'on se quitte, très chers auditeurs et très chères auditrices. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette 4e émission de LP de Nuit. N'hésitez toujours pas à nous retrouver sur le site et sur la page YouTube de Delta FM. Merci à Néo.
Bah, merci à vous.
Merci à Gabriel.
Bonne soirée à vous.
Et merci à Léandro.
Bonne soirée, merci de nous avoir écoutés.
Et on se retrouve la semaine prochaine à 18h sur Delta FM 90.2. C'était Lola pour LP de Nuit. Nice.